J'ai toujours hâte de prêcher la parole de Dieu, mais encore plus ce matin, parce que c'est vrai que ce masque, c'est vraiment désagréable. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir un appel de prédicateur ces prochaines semaines, n'est-ce pas? Non, mais que personne ne tombe dans les pommes, surtout, d'accord? On est délivré de toute crainte. Voilà. Donc est-ce que vous m'accordez encore quelques minutes pour la prédication? Ça va, on est un peu tard ce matin, mais ça va, vous êtes là, vous êtes avec moi, ça va aller? Super. C'est toujours un défi un petit peu le timing. Donc je vais parler peut-être un peu plus vite que d'habitude. Donc je ne serai pas un Bernois ni un Vaudois aujourd'hui. Ce matin, je voulais débuter en plus une nouvelle série que j'ai intitulée « Valeurs ». Valeurs. C'est tellement important de transmettre des valeurs, comme on vient de l'évoquer avec nos enfants. On aime transmettre des valeurs à nos enfants. Quelles sont ces valeurs? Aujourd'hui, on parle beaucoup de valeurs, même dans le monde de l'entreprise, dans les associations, dans n'importe quel groupe que nous formons. Il faut absolument définir quelles sont nos valeurs. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà vu, hein? Quelles sont nos valeurs? Pourquoi? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce que nous soutenons? Qu'est-ce que nous voulons promouvoir à l'interne ou à l'externe? Et sociologiquement, donc, on parle de valeurs humaines, de valeurs éthiques, de valeurs morales, écologiques, spirituelles, etc. Alors, c'est une bonne question à se poser. Déjà, on a eu deux familles ici, mais quelles sont les valeurs au sein de notre famille? Quelles sont ces valeurs? C'est important. Chez nous, on essaye une de nos valeurs. Y en a plein d'autres, mais c'est le respect, une valeur importante. On essaye de transmettre cela à nos enfants, afin qu'ils soient respectueux des gens qui les entourent, et même des adultes qui les grondent. Ça arrive quelquefois, n'est-ce pas? On n'a pas des enfants parfaits. Il y a des parents ici qui sont bénis parce qu'ils ont vu les enfants du pasteur. Hein, puis ils ont dit, ah, c'est bien, ils sont normaux. Ils bougent, ils font aussi des bêtises. Oui, ils ne savent pas tout à l'école du dimanche, c'est vrai. Donc voilà, c'est vrai que des fois, quand on est pris dans notre orgueil pour un enfant, hein, quand on vient nous dire quelque chose, c'est dur de respecter l'adulte. Mais on doit apprendre ça, c'est une des valeurs. Alors, finalement, avant de définir nos valeurs en tant que famille ou en tant qu'église, je me suis demandé, mais quelles sont véritablement les valeurs qui sont sur le cœur de Dieu? Les valeurs du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu? Et c'est un peu tout ça qu'on va voir dans cette série de messages. Alors, il y a un mois, j'ai parlé de l'ADN de l'escale. Vous pouvez réécouter ce message. J'ai pu exprimer l'ADN de l'escale, parler aussi de la vision. Et j'ai donné quatre lettres. C'était un lieu de restauration, donc restaurer un lieu de restauration, un lieu d'équipement, un lieu de justice sociale et un lieu familial. Vous l'avez vu. Et j'ai essayé d'exprimer ça, de montrer pourquoi bibliquement et puis de dire à quoi ça relie aussi concrètement l'Église. Donc c'est dans ces domaines que nous voulons investir, travailler et encourager. Et ce matin, j'aimerais relier cet ADN à des valeurs qui sont donc sur le cœur de Dieu. Ces valeurs, on va les découvrir ce matin au travers d'un texte, assez extraordinaire, un texte biblique bien sûr. C'est une lettre qui retrace une histoire extraordinaire. C'est la lettre de Paul à Philémon. Alors, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui n'ont jamais vu que la Bible avait un livre qui s'appelle Philémon, parce que c'est un seul chapitre. Donc vous n'avez jamais trop scruté en détail la Bible. Pas de souci, c'est comme ça, mais c'est juste un chapitre. Puis il y a ceux qui connaissent très bien Philémon parce que c'est un chapitre, justement. Puis vous pouvez tous dire, ah oui, non, mais j'ai lu des livres bibliques entiers quand même. Oui, Philémon. Exactement. Alors, l'histoire de Philémon, elle est, comme je disais, assez extraordinaire. Et j'ai besoin de vous donner un petit peu le contexte avant de lire le texte. Un jour, probablement à Éphèse, Paul rencontre Philémon. C'est un homme riche, un homme influent, qui avait des serviteurs, des esclaves. C'était quelque chose de courant, de normal. Là, il n'y avait pas une question d'éthique, c'était la norme culturelle. Et puis, au travers de Paul, cet homme se convertit. Il devient un homme généreux, un homme plein d'amour. Il ouvre sa maison, qui se situe à Colosse, et puis il y accueille quelques chrétiens. Et il forme une église de maison. Et puis, Paul n'est déjà plus là pour voir la suite, pour voir cette église, mais il en entend parler. Paul, lui, continue sa mission, il continue ses voyages. Et puis voilà que quelques années plus tard, on est à peu près en l'an 60, il se retrouve, donc Paul, emprisonné à Rome. Il est dans une résidence surveillée. Il peut malgré tout parler de Jésus. Et puis c'est dans ces circonstances qu'il va connaître, rencontrer un homme du nom d'Onésime. Alors, est-ce que Onésime avait entendu parler de Paul avant? Est-ce que Onésime avait désiré rencontrer Paul? On ne le sait pas. Mais en tout cas, ils se rencontrent. Et il commence à avoir de l'affection. Paul commence à avoir de l'affection pour Onésime. Et Onésime aide beaucoup Paul. Ça devient un bon collaborateur. Mais voilà que Paul apprend. Des fois, on rencontre quelqu'un, c'est super et tout. Puis il fait un peu plus connaissance. Puis là, Paul apprend qu'Onésime, en fait, c'est un fugitif. Onésime, c'est un esclave en fuite. C'est même un esclave qui a volé son maître et qui est parti. Puis ce maître, c'est nul autre que Philémon. Mince. Paul a dû dire, ah, Philémon, mais je le connais, Philémon. Aïe, 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 je le connais même bien. Donc, Paul va dire à cet esclave, il faut que tu y retournes. Il faut que tu retournes vers Philémon. Tu ne peux pas rester comme ça en fuite. Alors je vais écrire à Philémon. Puis tu verras, ça va bien se passer. Mais il faut que tu fasses face aux conséquences de tes choix. Il faut que tu y retournes. Il faut assumer. Et Paul a certainement dû lui rassurer encore en lui disant, mais ne t'inquiète pas, je connais Philémon, il va t'accueillir. Il va t'accueillir. Et s'il te libère de ton statut d'esclave, alors tu pourras revenir travailler avec moi. Donc c'est ce message qui est présent dans cette lettre de Philémon que nous allons lire maintenant. Donc vous pouvez ouvrir vos Bibles à Philémon, autrement les textes vont s'afficher à l'écran. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Appia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Salutations à ces standards. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi, donc Philémon, dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître que tout le bien que nous accomplissions pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ, je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi, accueille-le. Lui qui est une partie de moi-même, j'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi. Il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. c'est en comptant sur ton obéissance que j'étais écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. Amen. Yes. Vous avez lu Philémon comme ça. Alors dans le texte, on le voit peut-être, vous le sentez, Paul prend un peu des pincettes au départ pour aborder le sujet de sa lettre, qui est donc la personne d'Onésime. Il commence par complimenter Philémon. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode sandwich, mais ça semble marcher. Hein. On met les bonnes choses au début, on met le steak après où il faut un petit peu amener le sujet chaud, puis on remet une bonne couche après. En tout cas, voilà, il complimente Philémon. Il décrit comme un homme qui a beaucoup d'amour, mais c'est des compliments sincères, hein. C'est pas des lèvres flatteuses, je crois pas du tout de ça de Paul. Mais c'est sincèrement, il décrit Philémon comme un homme qui a beaucoup d'amour pour les chrétiens et qui a même cette capacité de rassurer, de tranquilliser, verset 7, le cœur ou les entrailles. C'était un chrétien de valeur, un chrétien mature. Et cela m'a d'ailleurs beaucoup interpellé sur ma propre capacité à rassurer et à tranquilliser les autres. Et c'est beau de voir ce lien qui est fait entre l'amour et le fait de rassurer, d'apporter la paix. C'est intéressant. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas donné à tous de savoir encourager, rassurer. Philémon avait cette capacité. Vous savez, il y a des chrétiens, vous avez sûrement déjà vu, qui ont le chic de rajouter une couche. Vous leur partagez un souci, un fardeau, une difficulté. Ah, j'ai du souci pour mon nouveau job, etc. Puis ils disent, ah bah ouais, bah je comprends, hein, bah à ta place, effectivement. Hein. Puis là, oh, vous avez encore plus peur après. Mais par amour et avec amour, on peut apaiser, on peut rassurer, on peut encourager. Donc c'est le cas de Philémon. C'est un homme de paix, un homme bienveillant. Et après avoir relevé cela, Paul va lui faire part de sa requête. Verset 9, vous l'avez peut-être relevé en lisant, au nom de l'amour. Au nom de l'amour, Paul lui dit en quelque sorte, c'est très bien, tout ce que tu fais c'est très bien, mais je vais te demander encore un peu plus, je vais te demander un pas de plus, au nom de l'amour. Et c'est ici que va se décliner ces valeurs qui sont sur le cœur de Dieu. J'aime beaucoup Philémon parce qu'à quelque part, on peut s'identifier assez facilement. C'est-à-dire qu'il y a un super fond, il y a un tas de choses qui se passent bien, mais on est appelé à un pas de plus. On est appelé à aller un peu plus loin. Des valeurs qui restent théoriques, on sait très bien qu'elles n'ont pas d'impact. Lorsque nous vivons ces valeurs dans la pratique, lorsqu'on confronte nos valeurs, les valeurs qui sont celles de Dieu, dans notre contexte, notre situation, on voit qu'elles ont le potentiel de changer les choses. Elles ont le potentiel de transformer notre comportement, notre action. Mais on réalise bien qu'on est limité. On réalise bien qu'on a besoin par-dessus tout du Saint-Esprit pour vivre ces valeurs. Ce n'est pas des valeurs qui sont naturelles, c'est surnaturel. On a besoin de Dieu. Alors il y a dans le texte la valeur du pardon. Il y a aussi dans le texte la valeur de l'accueil, de l'amour sans condition. Il y a la valeur d'égalité en dignité. Ne pas faire, autrement dit, hein, ne pas faire de différence liée au statut social. Il y a la valeur de croire dans le potentiel d'autrui. Donc on va regarder un petit peu plus ça dans le texte. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Je parle trop vite? Paul, dans ce texte, il vient un peu appuyer là où ça fait mal. Philémon, comme je l'ai dit, tu es un gars bien, tu aimes les gens, tu œuvres pour la paix. Mais es-tu prêt à pardonner celui qui t'a fait du tort? Es-tu prêt à pardonner à Onésime qui t'a volé et qui a fui en te laissant dans l'embarras? Il y a dans ce texte un appel au pardon, un appel à faire grâce au nom de l'amour. Nous connaissons ce passage d'Éphésiens 4, 32, « Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » J'aime beaucoup rappeler que le pardon, ce n'est pas oublier. Beaucoup de gens, ils se disent, ah mais je ne peux pas pardonner, parce que ça veut dire que je dois tout oublier. Non, il y a des traces qui restent, il y a des cicatrices. Mais le pardon te libère toi-même. Le pardon te libère de la rancune. Le pardon permet la reconstruction. Permet la reconstruction de la relation sur une base saine. Il y a peut-être des nouvelles limites à mettre. Il y a une confiance à retrouver. Mais il y a un choix du cœur. De dire, ok, je choisis l'amour et pas la rancune. Je choisis de reconstruire, je choisis d'aller vers. Parfois, c'est unilatéral le pardon. Parfois, c'est moi qui choisis, et puis l'autre, j'en sais rien ce qu'il a choisi lui. J'en sais rien où il est. Peut-être même qu'il est, il va jamais venir me demander pardon à moi qui ai été offensé. Mais je peux choisir de le libérer, choisir de donner mon pardon. Il y a un appel au pardon dans ce texte. Deuxième valeur, aimer et accueillir sans condition. Donc Paul ne va pas seulement demander à Philémon de pardonner, mais d'accueillir Philémon chez lui. Il dit au verset 12, « Je te le renvoie et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. » Et au verset 17, « Accueille-le comme si c'était moi. » Autrement dit, accueille-le correctement, accueille-le avec amour, honore-le. Parce que Paul, généralement, quand il était reçu, il était bien reçu. On recevait l'apôtre Paul, même si lui, il probablement aimait pas trop ça, il était toujours bien accueilli. On prenait soin de lui, il était honoré, et il le relève plusieurs fois dans ses lettres. Donc prends soin de lui comme tu le ferais pour moi. C'est quand même beaucoup demandé, non? Le gars lui a fait du tort. Il faut que je l'accueille parfaitement, avec amour. Il faut que je lui serve le repas, il faut que je prépare son lit, il faut que je l'accueille pas chez le voisin, mais chez moi. Dur. Je vous pose la question ce matin. Serez-vous toujours aussi accueillant et aimant si quelqu'un appuie là où ça fait mal? Quelles seraient vos valeurs si lorsqu'on appuie là où ça fait mal, vous êtes touché? Je pense qu'on a tous fait déjà l'expérience de mettre les pieds dans le plat. En rencontrant, par exemple, ou vivant un repas avec des amis, des chers amis, des gens qu'on apprécie, sympas, rigolos. Puis voilà que tu dis quelque chose qui va toucher un point sensible. Ça vous est déjà arrivé de mettre les pieds dans le plat comme ça en disant quelque chose et puis de venir toucher un point sensible? Il n'y a que moi qui mets les pieds dans le plat? Non, il y en a. Super, merci, je me sentais très seul. Et puis là, le repas était chouette, mais d'un coup, l'ambiance... elle change radicalement. On sent qu'on a posé la mauvaise question. On sent qu'on est allé au mauvais endroit. Et puis, voilà, du coup, là, on est effectivement seul et très petit. Hein, puis les amis qui sont sympas, bonnards, eh ben, ils le sont un peu moins, du coup, parce qu'on vient mettre le doigt quelque part où il y a une blessure. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a un point qui fait mal. Ils peuvent être des amours le reste du temps, mais si on vient sur ce sujet-là, si on touche là, crac. Ça tourne. Et c'était peut-être le cas de Philémon. Cet homme merveilleux, cet homme avec une capacité de consoler, d'apaiser des personnes en détresse, plein d'amour, eh bien, peut-être que lorsqu'on lui reparlait d'Onésime, c'était une expérience douloureuse. Lorsqu'on reparlait d'Onésime, peut-être que de la colère montait. Peut-être qu'il se disait, mais si je le chope, celui-là, il suffit qu'il revienne un jour me voir, eh bien, il va mal finir. Peut-être qu'il y avait ça au fond de lui. Paul est prudent. Paul choisit ses mots. Philémon a besoin de pardonner. Il a besoin de vivre cette valeur de l'accueil inconditionnel. Alors que je préparais ce message, je crois qu'il y a aussi quelqu'un dans cette salle qui a besoin d'accueillir inconditionnellement son enfant. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette salle, je le recevais en préparant, un enfant qui vous a tourné le dos, qui vous a critiqué, qui vous a trompé, un enfant qui a fait des choix, qui vous a attristé. Eh bien, j'aimerais vous encourager à l'accueillir à nouveau, à faire ce choix de pardonner. Comme Philémon. Troisième valeur, c'est celle qui touche à la valeur de l'être humain, la dignité. Paul demande à Philémon de ne plus considérer Onésime comme un esclave, mais comme un frère. Donc, à égalité, sur le même niveau. Et pas de manière inférieure. Donc vous savez très bien qu'un esclave à cette époque-là, enfin un esclave de tout temps finalement, n'a pas de valeur, n'a aucune valeur. Un esclave était la propriété du maître. de son maître. Ils étaient marqués. Ils étaient marqués. Et on possédait un esclave comme on possédait un objet. On pouvait en faire ce qu'on voulait. On pouvait le vendre. On pouvait l'échanger. Et s'il nous faisait du tort, le maître avait même le droit de mort sur lui. Un maître pouvait condamner son esclave à mort. Vous imaginez le pouvoir du maître et la valeur de l'esclave. Et ce qu'avait fait Onésime méritait cela, méritait la mort. Donc Philémon aurait pu le condamner à mort. Mais voilà que Paul demande à Philémon de pardonner, d'aimer, d'accueillir, et en plus de ne plus le considérer comme un esclave, mais de changer son statut social, de le libérer, de le considérer comme un frère, et faire de lui un homme libre. Il appelle donc à rendre sa dignité et à le voir comme son égal. Et ça nous renvoie encore une question à nous. Comment est-ce que je considère les gens de mon entourage? Est-ce que je me comporte différemment avec celui qui est étranger ou celui qui semble faire un travail qui me semble simple ou sans importance? Est-ce que je considère une femme de la même manière qu'un homme et vice-versa? Est-ce que j'enferme les gens dans leur passé sans penser que les choses puissent avoir changé? Quel est mon regard sur celui qui vit dans la rue, ou la personne malade, ou la personne qui a des troubles psychiques? J'ai ressenti plusieurs fois dans ma vie ce regard condescendant. Et c'est toujours été une expérience finalement bénissante. Pendant que je faisais mes études gymnasiales, je travaillais dans un supermarché, un grand supermarché, comme caissier. Et c'est fou comment les gens peuvent nous traiter lorsqu'on est caissier. Parfois, on est de la M, excusez-moi. Parce qu'on est caissier, ils ont tous les droits. Eux, ils payent. C'était choquant. Moi, je ne me rendais pas du tout compte. J'ai appris. Puis on peut juste rien dire. Hein. Il faut surtout pas commencer à se défendre ou répondre. Parce qu'on prend encore des problèmes. C'est étonnant. Avant mes études de théologie, j'étais chauffeur poids lourd. Je peux vous dire, quand je disais à certains que j'étais chauffeur poids lourd, j'étais pas très intéressant. Parce que j'étais chauffeur poids lourd. Ah ouais, chauffeur poids lourd, super. Et hop, il passe à autre chose. Si j'avais dit que j'étais en études de médecine ou je faisais le droit, ah, excellent, ah ouais, alors là j'ai du cerveau, j'ai de la... Non mais c'est dingue hein, quand même. Comment est-ce qu'on considère les gens? Moi j'aime dire qu'il n'y a pas de sommetier. Ça, c'est sûr. Amen. Mais heureusement, l'amour de Dieu ne fait pas de différence. Jésus, lui, il a franchi toutes ces barrières-là, barrières sociales, religieuses, culturelles, il les a franchies. On peut lire encore dans Colossiens 3, verset 11, « Maintenant, il n'y a plus de non-juifs et des juifs, des circoncis, des non-circoncis, il n'y a plus des étrangers et des non-civilisés, il n'y a plus des esclaves et des personnes libres, mais il y a le Christ, et il est tout, et il est en tous. » C'est la version parole de vie. Alors voici le message de Paul à Philémon. Onésime n'est plus un esclave. Il est comme toi en Christ. Il est ton frère. La dernière valeur présente, c'est celle de croire dans le potentiel des autres. De ne pas limiter le potentiel des autres. Et c'est quelque chose qui ressort tout le long des lettres de Paul. Paul prenait plaisir à lever des personnes, à les accompagner, à les coacher pour qu'elles entrent dans leur appel, pour qu'elles prennent leur place. Il croyait en un Timothée, il croyait en un Onésime, il voyait le potentiel. Et on le voit très bien dans cette lettre, je vous remets quelques passages, il parle d'Onésime comme son enfant, son fils. Il est une partie de moi-même, un frère bien-aimé, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort, mets-le sur mon compte. On a l'impression de lire un petit peu la parabole du bon samaritain, hein, qui soigne, qui prend soin et qui pourvoit aux besoins de cet homme blessé. Paul prend soin d'Onésime, qui était autre qu'un esclave en fuite. Rien à voir avec son propre statut, avec le statut de Paul. Il le considère comme une partie de lui-même. Je ne sais pas si on se rend compte. La seule fois où on a un peu ça dans la Bible, c'est mari et femme, hein, finalement, où on est une seule chair. Hein, tu aimes-la comme tu t'aimes toi-même, c'est ton propre corps. Mais là, non, lui, c'est pour Onésime qui dit ça. Il est une partie de moi-même, un fils. Et je suis prêt à payer pour lui, à payer sa dette. Dans le texte, Paul va faire encore un jeu de mots. Il va dire à Philémon, verset 11, « Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. » Avant, Onésime n'était pas Onésime, c'était un esclave sans valeur. Maintenant, Paul dit à Philémon de le considérer pour qui il est devant Dieu. Un homme libre, un frère en Christ, qui a un prénom qui s'appelle Onésime. Et ce prénom signifie « utile ». Onésime est vraiment important et utile pour accomplir l'œuvre de Dieu. Philémon est appelé à croire en son potentiel et à s'en réjouir. Donc voici quelques valeurs qui sont sur le cœur de Dieu, qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et Paul va terminer sa lettre en disant, je simplifie, si tu pardonnes, si tu accueilles, si tu aimes, si tu considères Onésime comme un frère utile, c'est mon cœur que tu vas tranquilliser. Il revient à cette capacité que Philémon avait de tranquilliser le cœur des saints. Il dit, c'est mon cœur à moi qui sera tranquillisé si tu fais cela. Alors ces valeurs, j'aimerais vous inviter à les vivre. Et je les relis à notre ADN de l'escale. Un lieu de restauration, c'est possible s'il y a la valeur du pardon. Équiper un lieu d'équipement, c'est possible si on voit le potentiel, si on croit dans le potentiel de chacun. Vivre un lieu de justice sociale, c'est possible si on est d'accord d'abolir les différences de rang, de statut et de classe sociale. Vivre la famille, être un lieu familial, c'est possible si on est d'accord d'aimer et d'accueillir inconditionnellement. On ne peut pas être défini par un ADN sans vivre les valeurs qui sont associées. Mais comme j'ai dit en introduction, on a besoin vraiment du Saint-Esprit. Alors ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse l'inviter ensemble à œuvrer dans nos cœurs, aujourd'hui spécialement. Peut-être que c'est difficile pour certains, peut-être que tu n'arrives plus à pardonner, peut-être que tu as eu trop de critiques, des gens méchants autour de toi. Peut-être un appel ce matin à vivre ces valeurs, à laisser le Saint-Esprit venir agir. Peut-être que tu étais trompé dans ta confiance, brisé. Il y a un appel pour toi ce matin. Peut-être que tu as des barrières parce qu'on t'a inculqué des préjugés. Des personnes, et il y a des personnes qui semblent être pas assez bien pour toi, pas assez bien pour mériter ton soutien. Que le Saint-Esprit puisse venir toucher cela ce matin. Je vais terminer rapidement. Ce matin, on peut être des Philémon à qui il est demandé d'aimer un peu plus, de pardonner. Ce matin, on peut aussi être des Paul pour des Onésime. Il y a plein d'hommes et de femmes qui fuient des situations de souffrance, des situations et ils ne savent plus vers qui se tourner. Ils ne savent plus quelle est leur utilité dans cette société. Donc on peut être des Paul qui allons conduire vers Jésus des Onésime. Je crois vraiment que l'Église, avec un grand E, elle est appelée à rétablir des Onésimes, de permettre à des esclaves de devenir libres, enfants de Dieu, rétablis dans leur identité, dans leur dignité, et de pouvoir être à nouveau utiles dans les mains de Dieu. Alors, on ne connaît pas tout à fait la fin de l'histoire de Paul avec Philémon. On sait que Paul, il a envoyé Onésime, ça c'est sûr, à Colosse. Il était accompagné de Tychique, c'est dans Colossiens 4, 7, 9, où il est mentionné, « Je vous envoie Tychique, accompagné d'Onésime, mon bien-aimé. » Cette lettre que nous avons lue, peut-être que Philémon, il l'a lue devant même Onésime. Peut-être que Onésime est allé avec la lettre et qu'il a lu cette lettre. Mais si c'est présent dans la parole de Dieu, je crois clairement qu'il y a eu réconciliation. Je crois qu'il y a un appel pour nous, encore ce matin, de pardonner, d'aimer, d'accueillir et de considérer nos frères et sœurs avec la valeur qui est celle du Christ. Alors ce matin, pour ne pas trop allonger, j'aimerais simplement pouvoir prier pour que encore nous puissions vraiment vivre ces valeurs. Je vous invite juste à encore quelques minutes de concentration avec moi, d'ouvrir vos cœurs pour que nous puissions vivre ce temps. Alléluia Jésus, merci. Seigneur, c'est facile ou c'est même bien vu de définir des valeurs dans toutes les sphères de la société. Mais Seigneur, ces valeurs, on veut que ce soit les tiennes. Ces valeurs, on veut que ce soit celles qui sont sur ton cœur. Et ce matin, je prie pour les valeurs qui ont été évoquées. Je prie que ton Saint-Esprit nous permette de les vivre. Seigneur, je prie pour ce matin celui qui a besoin de pardonner, qui a besoin d'aimer et d'accueillir sans condition. Seigneur, je prie pour notre manière de voir les autres autour de nous. Pardon pour nos regards condescendants. Pardon pour les fois où on s'est trouvé supérieur aux autres. Pardon. Seigneur Jésus, viens encore dans ce temps, dans les quelques minutes qui sont là. Seigneur, on te demande de nous visiter, Saint-Esprit, de nous aider, de nous encourager. Et que ce qui a été dit ce matin ne soit pas juste pour ce matin. Mais que tu puisses faire œuvre, Saint-Esprit, en nous. Et que nous puissions juste accepter, dire oui, me voici, je désire. Je désire grandir, je désire te laisser agir, Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne. Amen.